Témoignages de patients de l'espace d'accueil et d'information sur les dépendances d'Albi. Un atelier de faïdos sonore.
Je suis addict à plusieurs produits, en fait pas un seul. Donc pour ma part, moi j'ai commencé par fumer comme 80% des jeunes qui commencent certaines drogues et certains produits. En fait, on commence surtout par se chercher soi-même à un certain âge. Un âge de sûrement l'adolescence, où, voilà, on cherche nos limites, on cherche ce qu'on aimerait devenir, en fait, tout ce qu'on aimerait, voilà. Et on commence, pour ma part, c'était festif, en fait. J'ai commencé par fumer quelques jours en soirée, par picoler, on cherche aussi peut-être à décrocher d'un quotidien, à force. Enfin, voilà, j'ai commencé à travailler à 16 ans. C'est vrai que, voilà, je faisais pas mal d'heures, je faisais 12 heures par jour à travailler dans la restauration. Donc, c'est vrai que sortir le soir, voilà, moi, j'avais besoin de décrocher, en fait. J'avais besoin juste du quotidien.
En fait,
j'avais besoin de casser un peu le rythme de... Voilà,
c'était suite à une opération chirurgicale. J'ai été mise sous efferalgan codéiné par mon médecin traitant après l'opération pour les douleurs qui résultaient de l'opération. Et le problème, c'est que j'ai commencé à sentir un effet assez agréable, qui était plus que seulement antalgique, quoi. Donc après, j'ai commencé à en prendre, à me dire que j'avais mal pour pouvoir en prendre, et que dans ma tête, enfin, c'était un prétexte, mais pour moi, c'était mieux de me dire, de toute façon, j'ai mal, donc je vais en prendre un de plus, ou je vais en prendre en dehors des repas, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Et de plus en plus, je ressentais une sensation de bien-être. Je me sentais bien, je n'avais pas... Les petits problèmes qu'on a au quotidien, du coup, ils passaient beaucoup mieux. J'étais souvent joyeuse, enfin, ce genre de choses, quoi. J'avais l'impression que rien pouvait me résister. Au travail, ça allait très bien. Voilà, avant un rendez-vous avec un client, ben, je prenais mon petit cachet pour me sentir plus zen, plus cool, pour éviter d'avoir trop de pression.
C'est arrivé pendant l'adolescence, déjà fumé quelques joints. Après, avec plusieurs connaissances de l'époque qui étaient là-dedans, qui étaient dans la drogue, on est allé à un festival et tout ça. Et voilà, après avoir fumé des joints, donc voilà, après quelques soirées bien arrosées avec n'importe quelle drogue qu'il y avait, on arrive à l'héroïne. C'est arrivé pendant l'adolescence.
On cherche nos limites, on cherche ce qu'on aimerait devenir, en fait.
Après, j'ai commencé à en prendre...
Des joints dans une soirée, en picolant un peu.
À me dire que j'avais mal
pour pouvoir en prendre. À un extra, on a un ami qui vient nous dire que... Ben avec un trait de ça, parce que sur le coup, on sait pas, on a plein de noms pour utiliser l'héroïne.
Et de plus en plus,
ça,
je ressentais
sur le coup, on se rend pas compte,
une sensation de bien-être.
Non, c'était un engrenage, quoi. On commence par fumer la cigarette, après quelques joints, après de l'ecstasy, après du LSD. Et après, pour redescendre de tout ça, on trouve de l'héroïne, malheureusement. Et voilà. Et plusieurs connaissances qui sont là-dedans... nous incite plus ou moins à rentrer là-dedans.
Si vous voulez, les premières fois qu'on goûte chaque produit, en fait, les premières fois, on ne ressent pas vraiment le néfaste, en fait, d'aucun produit. Ça veut dire que c'est vrai que la première fois qu'on prend un extra, ben, on passe 10 heures à danser, à bouger, à parler avec les amis. C'est la meilleure musique, c'est les plus beaux gens qu'on a jamais rencontrés, c'est la plus belle soirée qu'on a jamais fait. Ça pour quelques premières fois. Le problème, c'est qu'après... voilà, on commence à ressentir, si on avait besoin de la moitié d'un extra, ou on prenait un extra dans la soirée et on passait toute la nuit à faire ce qu'on voulait, ben ça devient pas assez, en fait. On a besoin d'en prendre deux, on a besoin d'en prendre trois. Le problème, c'est que quand on commence à en prendre plus, ça veut dire que si avant on avait besoin de 10 heures pour passer la soirée, c'est vrai qu'avec un seul, on va faire, au bout de 2 heures, on ressent... on commence à se sentir mal, à avoir des frissons, on n'a plus envie de parler, on n'est pas bien, quoi, tout simplement. Donc on en reprend, et au bout d'un moment, le problème, c'est que pour rester dans une certaine normalité, ça veut dire que pour se réveiller, pour être normal, quoi, mais faire les choses les plus normales qu'on fait, on a besoin d'autres choses. En fait, la normalité ne nous suffit plus. En fait, moi, j'ai l'impression encore là, passer des soirées à fumer des joints, ben, ça ne suffit plus. Ben, c'est vrai qu'on a besoin de...
Et après, ben, j'ai été rappelée à l'ordre par la Sécurité sociale parce que comme je prenais le Efferalgan codéiné sous ordonnance, ils ont remarqué que je venais faire les renouvellements qui étaient au bout d'un mois, je les prenais au bout d'une semaine. Quoi. Donc, parce que au départ, c'était deux cachets qui faisaient effet, et puis après, on ne le sentait plus trop, donc c'était trois, et puis quatre, et j'en suis venue à augmenter les doses de cette façon. Et après le rappel à l'ordre par la Sécurité sociale, je courais les pharmacies pour les acheter en vente libre, sans ordonnance. Et là, je me suis rendu compte que ça allait loin parce que je faisais... mon compagnon qui vivait avec moi, il avait remarqué, forcément, ça se remarque, une dépendance pareille, ça se voit. Et donc, ce que je faisais, vous savez, les tablettes de médicaments, ça a un bruit assez particulier quand on casse la plaquette pour prendre le cachet dedans. Et donc, il avait l'ouïe assez fine pour m'entendre, même si j'étais dans une autre pièce. Ce qui fait que je courais les pharmacies. Et dans ma voiture, ou avant de rentrer, quand je savais qu'il n'était pas là, j'ouvrais toutes les boîtes de médicaments, je prenais tous les cachets que je mettais dans un paquet de mouchoirs vides ou des choses comme ça, que je gardais dans la poche pour pas qu'on entende le bruit de... Et là, je me suis dit qu'en arriver là, c'était vraiment grave.
Mais le problème, c'est qu'avec le gramme, sur le coup, ça ne nous suffit plus, donc on en prend plus. Mais vu que ça coûte cher, on en achète plus pour en revendre à nos amis au début. Et voilà, c'est qu'on commence à en vendre, donc ça veut dire qu'on a des problèmes juridiques, ça veut dire qu'on a des problèmes d'argent, ça veut dire qu'on est obligé de se cacher, de changer de téléphone tous les trois jours, on est obligé d'avoir une espèce de d'entourage. Enfin, les gens qui sont autour de nous, on est obligé de faire des tris, mais c'est vraiment compliqué parce qu'on arrive à... C'est même plus le problème, juste de la drogue. Parce que si on avait de l'argent, je pense que si beaucoup de... Enfin, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens dans cette situation qui sont dans les appartements à Paris et qui prennent de la coke, qui sniffent de la coke sans avoir forcément à en revendre. Et on est tous dans la même situation, quoi. Si on achète 10, 15, 20 grammes d'héroïne, eh bien en fait, voilà, si les 10 grammes ou 15 grammes pour notre consommation, on va en acheter 50 pour en revendre aux amis. Mais le problème, c'est qu'on en achète de plus en plus. Et c'est qu'on prend de plus en plus de risques, on investit de plus en plus d'argent et on doit de plus en plus d'argent. Parce que forcément, si on a cru... rembourser les 10-15 grammes, mais nous, on a besoin de plus. Donc, quand vous devez 2, 3 000, 4 000 euros pour des gens qui sont à RMI, au bout d'un moment, c'est carrément c'est toute une vie qui se met en place qui est peut-être pas... Voilà, c'est la vie qu'on avait choisie, en fait.
C'est un tout, quoi. C'est la vie quotidienne. Vous êtes bouffé par ça, vous pensez qu'à ça, quoi. Les horaires de pharmacie, vous les connaissez par cœur. Toutes les pharmacies d'Albi et de Toulouse, je savais où elles étaient. Je connaissais le prix au centime près, je savais, et je pensais qu'à ça. Si on partait en week-end, ben, avant de partir, il fallait que je me fasse une réserve de médicaments pour ne pas courir les pharmacies sur place. C'était, et sans parler des dépenses financières qui allaient avec, quoi, parce que c'était un coût de 20 à 25 euros par jour pour les médicaments, donc...
Je veux dire, le manque d'héroïne, vraiment, c'est pire que tout. Je pense que voilà, quand vous avez une grippe, mais qui vous terrasse à 40 degrés de fièvre, et quand vous êtes au lit, quand vous ne pouvez pas marcher, c'est à peu près comparable à ça, en fait. Sauf que là, ce n'est pas une grippe, c'est rien d'autre. Un doliprane, ça ne passe pas. C'est pire que ça, en fait. On n'arrive plus à se lever. C'est des contractions, c'est des courbatures, c'est à se taper la tête dans les murs.
J'ai continué, et le pire, c'est qu'après... Alors que quelques cachets me donnaient l'impression de bien-être, ça a été différent parce que après cette même dose, elle me faisait juste être normale. Donc pour avoir la sensation de bien-être, il fallait tout le temps augmenter. Et j'en suis arrivée à prendre 6 à 7 boîtes par jour de 16 cachets. Donc ça faisait une quantité hallucinante. Et pourtant, je me disais, bon, c'est pas comme si j'étais droguée, je fume pas de joint, j'achète pas de cocaïne, d'héroïne, je vais pas voir les dealers en bas des tours HLM, ce genre de choses, quoi. Donc je suis pas une droguée, mais bon, on se le dit pour que ça passe mieux, mais ça l'est vraiment, quoi. Là où ça devient difficile, c'est quand on se dit qu'on va arrêter parce qu'on croit que c'est comme la cigarette, qu'on arrête quand on veut. Et là, c'est les premières crises de manque qui arrivent et ça devient... Donc là, on en prend juste pour se sentir bien, enfin, pour se sentir normal. C'est même plus pour se sentir bien, pour l'impression de bien-être, pour cette espèce de joie, cette espèce de... Non, c'est juste pour être normal, pour ne pas avoir mal au ventre, pour ne pas avoir de frissons, pour ne pas avoir de tremblements, de cette impression chaud-froid. C'est là que ça devient terrible, vraiment. Et j'ai continué et pendant plusieurs années. Et maintenant, je me dis qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Ça attaque le foie. Mais on ne s'en rend pas compte sur le coup. On se dit toujours, mais c'est pas grave, c'est pas de la vraie drogue, ce genre de choses. Mais on est quand même dépendant. C'est un tout, quoi. C'est la vie quotidienne, voilà. Vous êtes
bouffé par ça.
C'est
juste ce que je vous dis, c'est que sur le coup, en fait, on se sent capable de tout, mais le lendemain, on n'est plus rien. Voilà.
Donc là, on en prend juste.
En fait, on s'enferme dans une espèce de. Voilà. On croit que c'est les meilleurs amis du monde, on croit que c'est une famille.
Quand on est dans l'héroïne, on est tellement dans un autre monde qu'on ne réalise pas vraiment le danger, quoi.
Je suis venue à l'EAID par l'intermédiaire de mon gynécologue à l'hôpital parce que j'étais enceinte. Et même enceinte, j'avais réduit les prises, mais pas suffisamment. Et la petite est venue au monde décédée. Et là, je me suis sentie vraiment méprisable, je me suis sentie moins que rien parce que je l'avais même pas, même pour elle, pour mon bébé, je l'avais pas fait, quoi. J'avais même pas réussi à l'amener en vie, quoi. Et là, ça a été assez dur. Même là, c'était pas évident encore de me dire bon, mais c'est bon, là, stop, t'en as assez fait, tu arrêtes. Même là, c'était pas évident parce que tout simplement, j'avais peur qu'on m'enferme dans une chambre, qu'on m'attache à un lit et qu'on attende que la crise, enfin que le manque s'arrête, quoi. Je savais pas qu'il existait des substituts, j'avais entendu parler de substituts pour l'héroïne, ce genre de choses, mais je savais pas que ça existait pour des médicaments, et je savais pas comment c'était fait. Et puis j'avais peur, parce qu'après l'accouchement, ben forcément, j'en prenais encore plus pour me sentir, juste pour éviter de pleurer, juste pour éviter de d'y penser. Et là...
Et je pense que c'est ça le déclic, en fait. C'est juste se trouver soi-même sans le produit.
Compagnon que j'ai voulu aider là-dedans, donc je l'ai amené ici.
Enfin, les gens autour de nous, c'est plus qu'important, quoi.
Et aujourd'hui, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est de ne pas avoir demandé de l'aide plus tôt, c'est de ne pas être allé voir le corps médical plus tôt.
L'EAID, c'est une structure, en fait. Oui. Concrètement, c'est une structure qui nous permet de nous lever le matin. Enfin, on est constamment en déséquilibre, en fait. On n'a pas une humeur fixe. C'est pour ça que l'EAID, en fait, bon, c'est l'EAID, c'est tous les centres. Moi, je pense que le fait d'avoir un suivi, voilà, c'est le fait, justement, de stabiliser son état, c'est de stabiliser ses sentiments, c'est de stabiliser son état physique pour arriver à recommencer une vie normale. Et recommencer une vie normale, je pense qu'il faut des années, en fait, juste à pouvoir faire des choses normales, quoi. À faire à manger avec une copine, à aller au cinéma, à aller, voilà. Mais sans forcément se dire, ce soir, on va acheter tel produit ou tel produit. Et le fait d'être au centre, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on est quand même suivi. Donc, on a quand même des médecins qui sont là et on peut parler. On arrive à avoir des conseils, alors que ce soit avec l'infirmier aussi, on arrive à avoir des conseils sur la vie. C'est pas forcément sur les soins ou sur autre chose, c'est vraiment sur la vie.
Au début, c'était vraiment très très bien parce que je me disais, ben voilà, ça y est, c'est réglé. Et au bout de quelques mois, ben là, c'est ça le pire, c'est que en fait la sensation de bien-être, elle a recommencé à me manquer. Je me disais, bon, si j'en prends un petit peu, c'est pas grave, personne ne le saura, et puis au moins je me sentirai bien. Et c'est là où l'équipe de l'EAID a été vraiment géniale parce que je me suis dit, si je leur en parle, ben voilà, ils vont vraiment me garder, ils vont vraiment m'enfermer au bon sauveur, ou ils vont vraiment... Et en fait non, ils savent qu'on est humain, ils savent que c'est pas aussi facile que de prendre son petit flacon et puis ça va mieux. Et ils ne culpabilisent pas, surtout ça. Ils ne nous culpabilisent pas. Enfin, moi, du moins, ils ne m'ont pas culpabilisé. Ils ont parfaitement compris. Et ça m'a permis de ne pas, ben, de pas craquer, justement. Parce que je pense que si j'avais eu un rapport... si on m'avait regardé de travers ou si j'avais pas été entendue comme une personne normale, ben, je pense que j'aurais craqué et puis je serais recommencé à couvrir la pharmacie. Donc c'est un gros plus, un gros changement.
Bonjour.
Tu as ramené les flacons?
Non, je ne les ai pas pris avec puisque je pensais repasser demain, ils étaient inclus.
Aujourd'hui?
Ouais.
Bon, mais c'est pas grave, je vais pas te faire revenir demain. Pour une fois, quand même, c'est pas un jour au traitement qui va changer la face du monde. Donc, je vais te donner une semaine. Mm-hmm. Bon, la posologie, te va bien toujours?
Oui, j'ai commencé à essayer de passer un jour sur deux.
Bah, c'est un milligramme.
Ouais.
Et alors?
Ça va. C'est pas encore tout à fait au point, mais ça va.
Bon, on va y aller doucement, parce que les doses les plus basses, tu le sais que c'est le plus difficile.
Oui, c'est vrai.
Mais tu es dans une bonne dynamique là pour moi. Donc je vais te chercher ton traitement, pour l'instant.
Ce sera fini quand, à peu près?
Il n'y a pas de règle particulière.
Alors j'ai diminué, je suis passée de 25 mg par jour. Là j'en suis à 5 mg par jour. Ça fait au mois de novembre, ça fera 2 ans que je suis ici. Et que je viens toutes les semaines prendre les doses de méthadone. Là, j'en suis au niveau le plus bas en flacon. Comme Jean-François me l'a dit tout à l'heure, on pourrait baisser soit par gélule, soit que j'en prenne un jour sur deux pour baisser encore jusqu'à arriver à complètement l'arrêter. Et je devrais être en bonne voie, ça devrait bien se passer. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, gros maximum, ce sera fini.
Voilà, donc 7 jours, 2, 4, 6, 7.
Je n'ai pas plus de poche avec.
Je te donne une poche.
Donc aujourd'hui, être passé sous méthadone, ça fait que je me sens normale comme tout le monde, comme n'importe qui. C'est-à-dire que j'ai plus de tremblements, plus de maux de ventre, plus de sensations de manque, plus rien.
Ça aide à savoir le pourquoi du comment, pourquoi on a fait ça, et comment surtout s'en sortir, quoi. Un soutien moral, un soutien physique, psychologique, enfin, tout. Que du bon. Que du bon. Mais voilà, hein, on pense plus à l'avenir et on arrête de penser au passé. Et voilà... Donc on diminue les doses de méthadone petit à petit, selon son état, quoi, et jusqu'au jour où on arrive à arrêter.
C'est pas l'herbe, c'est pas de l'herbe à l'héroïne.
Parce que voilà, j'ai gâché beaucoup de choses.
Il y a aucun de ces produits qui m'a vraiment, qui m'a permis de devenir quelque chose. Honnêtement, ça nous montre juste que la vie, elle est...
Parce que...
Elle vaut la peine de la vivre, mais vraiment sans artifice.
Parce que ça serait jamais arrivé, parce que j'aurais une petite fille de 2 ans, parce que...
À recommencer une vie normale.
D'ici la fin de l'année, gros maximum, ce sera fini. Ça peut dire.
Venez d'écouter Témoignages de patients de l'espace d'accueil et d'information sur les dépendances d'Albi. Un atelier de faille sonore réalisé par Pierrette Magnier, Marie Roland, Jean-François Alves et Pierre Baranski, sous la direction de Charlotte Rouault et Benoît Bory, juin 2011. Merci aux patients de l'espace d'accueil et d'information sur les dépendances de la Fondation Bon Sauveur d'Albi.